Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde d'aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du jeudi 6 mai 2021. D'abord, le sommaire. La CPI condamne le chef rebelle ougandais Dominique Ongwen à 25 ans de prison. En Éthiopie, l'ancien parti au pouvoir au Tigré est classé organisation terroriste. Dans l'est de la RDC, la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré dans le Nord Kivu. Washington soutient la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La Cour pénale internationale a condamné l'ancien chef rebelle ougandais Dominique Ongwen à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après avoir été enfant soldat, Ongwen est devenu un commandant de la redoutable armée de résistance du Seigneur. Nathalie Barche.
Dominique Ongwen, 45 ans, a été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation, dont ceux de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. Il a aussi été jugé coupable de grossesse forcée, une accusation qui n'avait jamais été prononcée par la Cour pénale internationale. Ongwen a été enlevé à l'âge de 9 ans par les rebelles de la LRA. Il était passible de la prison à perpétuité, mais l'accusation, estimant que son histoire justifiait une peine inférieure, a requis 20 ans de prison. Pendant près de 30 ans, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé des milliers d'enfants dans des violences qui se sont étendues au Soudan, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Dominique Ongwen, qui s'est rendu en 2015, est le premier commandant de la LRA à être jugé par la Cour pénale internationale. Le fondateur du groupe rebelle Joseph Kony, objet d'un mandat d'arrêt de la Cour, est toujours en fuite.
Un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile au Tchad a appelé jeudi à de nouvelles manifestations samedi contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Nous lançons un appel pressant à toutes les organisations à se joindre sans délai à la mobilisation du peuple, a déclaré Max Lohangar, coordinateur du collectif Wakit Tama, fustigeant la junte au pouvoir. Toujours au Tchad, le ministre de la Défense a affirmé jeudi que les rebelles qui mènent depuis la mi-avril une offensive sont en débandade et que les autorités ne vont pas dialoguer avec les terroristes. Les combats ont continué dans le Kanem. La semaine dernière, un hélicoptère de l'armée s'est écrasé à la suite d'une panne technique, a assuré l'armée, mais le groupe rebelle affirme avoir abattu l'appareil. Nous y reviendrons en page magazine. Le premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mouamba, a démissionné mercredi avec son équipe gouvernementale, près de 3 semaines après l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un 4e mandat. Le président Nguesso a demandé aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Tanganyika et jeune frère de l'ex-président Joseph Kabila a été destitué jeudi en son absence, a indiqué une source officielle, provoquant une controverse sur le respect des procédures. 12 députés du FCC ont été empêchés par les forces de l'ordre à accéder à la plénière. Sur les 26 gouverneurs de province en RDC, Zoé Kabila est le seul à n'avoir pas rejoint le camp de M. Tshisekedi. Le Front de libération du peuple du Tigré est classé comme organisation terroriste. Le Parlement éthiopien a avalisé ce jeudi une décision récente du Conseil des ministres. Le point avec Abdulrahman Dia.
Le procureur général d'Éthiopie assure que les citoyens ordinaires ne seraient pas affectés par cette nouvelle mesure, tout en mettant en garde d'éventuels pays étrangers de collaborer avec le TPLF et l'armée de libération Oromo, également classée organisation terroriste par le Parlement. La classification du Front de libération du peuple du Tigré en entité terroriste éloigne un peu plus la perspective de pourparlers de paix au Tigré 6 mois après une vaste opération militaire pour renverser les autorités régionales. Pour le Centre d'information et de communication du Tigré, installé aux États-Unis, la mesure va déboucher sur des arrestations de masse et donnera plus de latitude au gouvernement pour persécuter les Tigréens qui représentent environ 6% de la population. Le TPLF a dominé la coalition au pouvoir en Éthiopie entre 1991 et 2018, date de la nomination de Abiy Ahmed au poste de Premier ministre. Des élections régionales et législatives sont prévues le 5 juin en Éthiopie, les premières depuis l'arrivée au pouvoir de M. Abiy, qui va chercher à conforter son pouvoir par la légitimité des urnes.
La Somalie rétablit ses relations diplomatiques avec le Kenya, rompues en décembre dernier sur fond d'accusations d'ingérence. Cette annonce intervient alors que le président kényan Uhuru Kenyatta recevait à Nairobi le président de la République autoproclamée du Somaliland, que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Le Maroc a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur à Berlin pour consultation, en dénonçant dans un communiqué des actes hostiles de l'Allemagne sur le dossier du Sahara occidental. Le texte dénonce notamment l'activisme antagonique de Berlin après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé par les indépendantistes du Front Polisario.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis se disent favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, une prise de position exceptionnelle saluée par l'Union africaine. De nombreux pays ont soutenu cette idée, dont la France et la Russie. Plus de détails avec John Lyndon.
Une crise sanitaire mondiale, des circonstances exceptionnelles appellent à des mesures extraordinaires, a déclaré hier Catherine Tai, représentante américaine au commerce. La position américaine pour une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid est une remarquable expression de leadership, a déclaré le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, qui dépend de l'Union africaine. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, salue une décision historique. Jusqu'ici réticent, Emmanuel Macron s'est dit tout à fait favorable à ce que la propriété intellectuelle soit levée sur les vaccins anti-Covid. Une idée également partagée par Vladimir Poutine. Pour l'heure, les brevets sont détenus essentiellement par des laboratoires américains qui sont encore réticents, par crainte de perdre une manne financière.
Le gouvernement d'Angela Merkel a exprimé de fortes réserves à l'égard de cette proposition soutenue par les États-Unis, estimant au contraire que les brevets devaient continuer à être protégés. La protection de la propriété intellectuelle est la source de l'innovation et doit continuer à l'avenir à le rester, a indiqué une porte-parole du gouvernement allemand. De son côté, le PDG du géant pharmaceutique américain Pfizer, Albert Bourla, a déclaré qu'il n'était pas du tout favorable de la décision des États-Unis de soutenir la suspension temporaire des brevets des vaccins anti-Covid. Ouvrir des sites de production du vaccin BioNTech-Pfizer ailleurs que ceux existants aux États-Unis et dans l'Union européenne serait compliqué par les goulots d'étranglement sur les matières premières, appelant à ne pas perturber les opérations de production avec des annonces politiquement motivées, des promesses vides, dit-il. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a exhorté jeudi la Russie à cesser son comportement agressif à l'égard de Kiev. Nous regardons vers la Russie pour qu'elle cesse ses actions dangereuses et agressives, a dit Anthony Blinken lors de sa rencontre à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après 4 tentatives infructueuses, SpaceX a finalement mené avec succès le lancement et l'atterrissage d'un vaisseau spatial futuriste destiné à faire atterrir des personnes et des marchandises sur la Lune et les transporter sur Mars. Claire Morigibourg.
Elon Musk, le patron de SpaceX, a confirmé que l'atterrissage du prototype de la fusée géante Starship s'est déroulé sans problème. Des flammes se sont échappées de la base de la fusée peu après l'atterrissage, mais elles ont été éteintes quelques minutes plus tard grâce à des canons à eau. Un tel feu n'est pas inhabituel compte tenu de la masse de carburant utilisée par cet énorme engin de 50 mètres de haut, a expliqué un commentateur. Le prototype a décollé à la verticale grâce à ses trois moteurs depuis Boca Chica au Texas. Puis, une fois en l'air, s'est renversé pour se placer en position horizontale. La fusée est ensuite redescendue en position verticale, se poser sur une piste tout près de son lieu de décollage. Les quatre précédents essais s'étaient soldés par d'impressionnantes explosions à leur retour au sol. La future fusée doit mesurer 120 mètres de hauteur et sera capable de transporter jusqu'à 100 tonnes. C'est Starship que la NASA a choisi pour amener dans l'espace les prochains astronautes américains.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
La Guinée-Bissau, pour la troisième fois, vient de lever sur le marché financier des Lumois 22 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du trésor de maturité 5 et 7. Au total, les autorités bissau-guinéennes ont levé un peu plus de 61 milliards de francs CFA depuis le 9 mars 2021. Au Cameroun, Simon-Pierre Ediba a été nommé directeur général par intérim de l'autorité portuaire. Il remplace Josué Yumba, décédé le 28 avril dernier. L'autorité portuaire nationale est le régulateur des ports de Douala, Kribi et Limbé, qui concentre plus de 95% des exportations et importations du pays pour plus de 20 millions de tonnes de trafic de marchandises par an. Le ministère américain du Travail a annulé mercredi une réglementation adoptée début janvier par l'administration Trump qui rendait plus difficile pour les chauffeurs et autres livreurs de revendiquer un statut de salarié. Ce retrait permet de maintenir les droits des travailleurs à un salaire minimum et aux protections liées aux heures supplémentaires. La loi américaine prévoit en effet un salaire minimum de $7.25 l'heure et des heures supplémentaires au-delà des 40 heures par semaine.
Nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde, initialement prévues pour débuter en juin, commenceront finalement en septembre 2021. C'est la décision de la commission d'urgence de la CAF en concertation avec la FIFA. Mardi, des fédérations ont indiqué que ce report a lieu car de nombreux stades ne sont pas homologués sur le continent. Les 6 journées des qualifications seraient étalées 2 par 2 en septembre, octobre et novembre, puis les barrages au mois de mars après la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, initialement prévue en 2021 mais décalée à 2022 en raison de la pandémie, selon les mêmes sources. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. En Europe, Chelsea du Marocain Hakim Ziyech et du portier sénégalais Edouard Mendy, énorme, a pris le meilleur 2-0 sur le Real Madrid pour rejoindre Manchester City lors d'une finale de Ligue des Champions 100% anglaise. Le 29 mai à Istanbul, Edouard Mendy deviendra le troisième gardien africain de l'histoire qui disputera une finale de Ligue des Champions après le Zimbabwéen Bruce Grobelha, vainqueur en 1984 avec Liverpool et finaliste en 1985, et Tony Silva, un autre Sénégalais, finaliste en 2004 avec l'AS Monaco. Il s'agira de la 8e finale de Ligue des Champions entre clubs d'un même pays et la 3e pour des équipes anglaises. Après la victoire de Manchester United au tir au but sur Chelsea en 2008 et celle de Liverpool sur Tottenham en 2019. La Ligue Europa, elle, désignera ses finalistes ce soir. Unai Emery, grand spécialiste de la compétition, espère tenir tête à son ancien club Arsenal pour guider Villarreal jusqu'à la finale. Le sous-marin jaune sera à Londres avec le plus petit avantage possible, une victoire étriquée de 2-1 à domicile. Ici, en NBA, Atlanta assomme Phoenix, New York chute à Denver. Bagassi Koura.
Dominés à Denver 113 à 97, les New York Knicks voient revenir sur eux les Hawks d'Atlanta, large vainqueur des Phoenix Suns 135 à 103. Cette défaite de Phoenix a permis au Utah Jazz de lui reprendre la première place de la conférence Ouest. Utah Jazz qui a signé une troisième victoire consécutive en surclassant San Antonio 126 à 94. Les Milwaukee Bucks, eux, ont fêté leur fraîche qualification en play-off par une victoire sur les Washington Wizards obtenue sur le fil 135 à 134. À Minneapolis, Minnesota a battu Memphis 139 à 135.
Merci, Bagassi Koura.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidzado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Daoud Yahia Brahim, rassure la population que la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune présence rebelle sur le territoire tchadien, dit-il. Daoud Yahia Brahim ferme la porte au dialogue avec les éléments du FACET qu'il qualifie de terroristes. La coalition Wakit Tama, elle, appelle à nouveau à une manifestation pacifique le samedi pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point d'Ndjamena.
Daoud Yahia Brahim, ministre en charge de la Défense nationale, salue la bravoure des forces de défense et de sécurité qui, malgré le décès brusque de leur chef, le maréchal Idriss Déby Itno, ont su donner un coup d'arrêt à l'ennemi. Un ennemi venu de l'extérieur pour déstabiliser les institutions de la République. Daoud Yahia Brahim affirme que les prisonniers de guerre, dont la plupart sont des étrangers, sont entre les mains de la gendarmerie qui prend son hideux sans donner leur nombre exact. Il déclare au micro de VOA Afrique que la situation est sous contrôle.
Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. Je rappelle à tous ceux qui sont en charge de l'enseignement en N'Djamena ou bien dans toutes les provinces, je leur rassure que la situation est calme et sous contrôle. Et pour les militaires qui sont en N'Djamena aujourd'hui, c'est des militaires qui viennent des provinces, ils sont en train de se préparer pour repartir dans leurs unités respectives.
Le conseil militaire de transition avec son ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue serait-il prêt à impliquer la rébellion dans le dialogue national inclusif pour faire taire les armes dans la zone septentrionale du pays? Daoud Yahia Brahim est dur de ton.
Dialoguer avec les terroristes, vous, la presse, vous allez les rencontrer, vous allez poser la question. Il y a certains qui ne connaissent même pas N'Djamena, c'est trop où. Vous parlez de rébellion? Moi, je ne connais pas des rebelles, je connais des terroristes.
Pour Adoum Soumaïne, Adoum, membre de la coordination Wakit Tama, si dialogue il y a, il doit être inclusif afin de jeter une base pour une nouvelle république.
Celui qu'on exclut, eh bien, on en fait un renégat, et le fact, c'est un groupe armé. Ben, si on les exclut, qu'est-ce qu'on leur propose pour la perspective? La guerre, n'est-ce pas? Ils ont offert un cessez-le-feu et ils ont offert de participer au dialogue inclusif. La réponse qu'on leur a donnée, non. Eh bien, ils nous offrent de nouveau une perspective de guerre. On est opposé à ça.
C'est dans ces conditions que la coalition Wakit Tama, qui dit avoir observé en toute responsabilité une trêve pour enterrer les militants tués par balles, déclare qu'elle retourne dans la rue samedi prochain. Maître Max Lualngar est le porte-parole de la coalition.
La toute prochaine marche pacifique est justement prévue pour le samedi 8 mai 2021 sur toute l'étendue du territoire. Nous devons ensemble tracer les sillons pour façonner le modèle tchadien que nous voulons inclusif, généreux et dynamique.
L'UNDR, le parti de l'opposant Saleh Kebzabo, qui a eu deux places dans le gouvernement de transition, quitte la plateforme Wakit Tama et met en garde tous ceux qui tenteraient de semer de la confusion dans l'esprit des citoyens en déformant sa décision souveraine de participer aux structures de transition. Célestin Toponan, premier vice-président de l'UNDR, dit que son parti gèle sa participation à toute manifestation pacifique.
L'UNDR demande à ses sympathisants, à ses militants de suspendre les marches et toute autre forme de manifestation en attendant de voir clair dans les négociations qu'il faudrait absolument engager avec les autorités de la transition pour la gestion de ces marches pacifiques.
Ce revirement, selon les responsables de la coalition Wakit Tama, n'entamera en rien leur détermination. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Lancement hier à Goma de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour la province du Nord Kivu, où la fin de la 12e épidémie d'Ebola vient d'être déclarée. L'état de siège proclamé par le président Félix Tshisekedi est entré en vigueur aujourd'hui avec une nouvelle administration militaire. Pour savoir comment cette campagne se déroule après la proclamation de l'état de siège, Eddie Isango a joint le gouverneur civil du Nord Kivu, Carly Nzanzo Kasivita.
Kinshasa, on avait déjà commencé la vaccination. Nous avions à faire le dispatching dans la province. Comme vous le savez, nous avons nos problèmes spécifiques. La RDC, c'est un grand pays avec les questions des logistiques. Il nous a été aujourd'hui possible de pouvoir lancer, de pouvoir recevoir la première dose comme autorité provinciale du Nord Kivu.
Vous vous êtes fait vacciner. Je crois que ça allait être le vaccin d'AstraZeneca. Vous n'avez pas peur?
À mon niveau comme scientifique, j'ai opté de prendre ces vaccins.
Combien de personnes attendez-vous vacciner dans votre province?
Et ce qui est vrai, évidemment, la RDC n'a pas reçu beaucoup de doses. C'est pratiquement 6 millions de doses pour toute la RDC. Au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons commencé avec environ 70 000 doses. Donc, nous continuons à espérer que le gouvernement central va continuer à nous approvisionner pour continuer la vaccination. Ce qui est vrai, au niveau des nombres de cas COVID, nous sommes en plus au moins 2300 cas confirmés avec seulement 93 cas actifs, ce qui est quand même un record assez important dans la lutte. Nous pensons que le vaccin va pouvoir nous aider à pouvoir maintenir le cap et ainsi espérer que demain, nous aurons une immunité collective.
Il y a beaucoup de réticences en Afrique et au Congo comme ailleurs. Dans le Kivu, il y a déjà eu une histoire de réticences avec les vaccins pour Ebola et même avec les traitements. Qu'est-ce qui est fait pour résoudre ces problèmes de réticence?
La question du vaccin en République démocratique du Congo, spécialement au Nord Kivu, surtout avec Ebola, c'était une nouvelle maladie. Il y a eu quelques réticences, mais pendant la deuxième vague d'Ebola qu'on a eu, qu'on vient de vaincre, la question du vaccin n'a pas posé de problème. Les gens se sont accommodés. Je m'imagine, et toutes les communications qu'il y a eu sur le vaccin AstraZeneca et donc a pu créer de la résistance, on sait de la population, mais cette population attend de voir les autorités congolaises commencer à avoir ces vaccins. C'est la raison pour laquelle, en beau-père de famille, nous avons pu montrer notre sens patriotique, parce qu'en fait, la lutte contre Covid, c'est une lutte que nous devons mener ensemble.
La campagne est lancée alors que débute l'état de siège. Comment sera gérée cette campagne qui vient juste d'être lancée au moment où vos prérogatives sont transférées aux militaires?
L'administration sanitaire de la santé est debout. Nous avons une division de la santé qui pilote cette campagne avec d'autres partenaires tels que l'UNICEF. À ce stade, nous n'avons pas de doute parce que les centres de vaccination sont dans les hôpitaux.
Carly Nzanzo Kasivita, gouverneur civil du Nord Kivu.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les États-Unis ont annoncé qu'ils sont favorables pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Une décision saluée par plusieurs pays dont l'Allemagne, la France et la Russie. L'Union africaine a aussi accueilli favorablement cette intention, mais cette annonce provoque déjà des réticences chez certaines firmes pharmaceutiques. Pour analyser les enjeux autour de cette affaire, Mohamedou Onfa s'est entretenu avec le docteur Roger Etoa. Il est médecin de santé publique basé à Douala au Cameroun.
Les vaccins sont protégés par les brevets parce que la recherche sur les vaccins, comme les autres médicaments, coûte excessivement cher. Donc il y a des gens qui prennent des risques, des investisseurs, pour financer la recherche à coût de millions, voire de milliards de dollars. Et il faut bien qu'on protège le retour sur investissement. C'est pour cela que la recherche, ces vaccins sont donc protégés pour une durée généralement comprise entre 10 et 20 ans.
Qu'est-ce que cela signifierait concrètement si l'administration Biden parvenait à obtenir la levée des protections de la propriété intellectuelle de ces vaccins?
Les compagnies pharmaceutiques avaient massivement et rapidement investi sur la recherche pour les nouveaux vaccins contre le Covid. On s'attendait à ce qu'elles aient une bonne période confortable pour un retour sur investissement et on ne s'attendait surtout pas à ce qu'il y ait une levée de restrictions de protection assez rapide. Mais probablement c'est dans une visée humanitaire parce que les vaccins tardent à être démocratiques et si les vaccins tardent à être démocratiques, ça va évidemment impacter sur la santé publique, notamment dans les pays vaccinés. Donc il faut que la population mondiale soit rapidement vaccinée, que l'humanité, la progression de la protection immunitaire par les vaccins dans le monde soit quasiment homogène. Donc je pense que c'est ce qu'il y avait derrière l'idée du président Biden.
On imagine qu'il y aura des réticences de la part des firmes pharmaceutiques, n'est-ce pas?
Évidemment, il y aura des résistances des firmes pharmaceutiques parce qu'elles vont pas se laisser faire. Et ce sont des pays où le droit et l'état de droit est appliqué de façon assez stricte. Donc on s'attend justement à une bataille judiciaire entre ces compagnies pharmaceutiques et l'administration Biden. L'issue de ce combat judiciaire va vraiment déterminer l'avenir du combat ou de la lutte contre cette pandémie mondiale.
Alors, quel pourrait être l'impact de cette annonce si elle se matérialise pour le continent africain?
L'impact direct sera quasiment nul parce que très peu de pays africains peuvent produire des produits pharmaceutiques, que ce soit des médicaments ou des vaccins, même en générique. Par contre, l'impact sera indirect puisque d'autres pays qui sont considérés comme des usines du monde, tels que l'Inde ou la Chine, pourront produire massivement des vaccins qui seront maintenant mis à la disposition des pays pauvres tels que les pays africains.
Docteur Roger Toa, spécialiste de santé publique basé à Douala, au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, a décidé de reporter les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde. Ces matchs se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022. La CAF justifie le report par les défis que représente la gestion de la pandémie de COVID-19 et le souci de garantir des conditions de jeu optimales. Mardi, des fédérations ont indiqué que ce sport, à 4 semaines du début des qualifications, initialement prévues en juin, a lieu car de nombreux stades ne sont pas homologués sur le continent. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint à Yaoundé Thierry Ndo, journaliste sportif à Sky One Radio.
On ne comprend pas comment la CAF a pu homologuer les stades à tout moment précis. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le faire bien avant. Les pays auraient pu prendre une disposition, mais on a bien vu que c'est depuis le début de la semaine que les infrastructures ont été habilitées par la CAF, donc ça peut intriguer.
Alors justement, on sait que à partir du mois de septembre, les championnats européens ont commencé. La plupart des joueurs évoluent en Europe. Il y a la CAN qu'il faut préparer parce qu'elle commence en janvier. Est-ce que tout cela ne fera pas trop pour les joueurs?
Vous savez que pendant que la CAF reporte l'éliminatoire, les autres vont jouer. En Amérique du Sud, on avait reporté en mars, on va jouer en juin. L'Euro se dispute en juin, juillet, et en octobre, en septembre, ils vont amorcer l'éliminatoire. Ça sera compliqué pour les footballeurs du continent noir. D'autant plus qu'en janvier-février 2022, il va falloir enchaîner avec la CAN. Donc, le continent noir sera tellement exposé. Vous savez également qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en juin et juillet 2022. Donc, j'avoue qu'en tant que reporter, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça retombe sur la CAF. Ça va dépendre sur les performances des footballeurs africains. Et surtout, certains, vous savez, avec le Covid, ça sera la 10e saison qu'on aura quasiment 2 saisons pleines sans retirer possible pour les footballeurs. Donc, pourquoi la CAF a été obligée d'homologuer ces stades dès maintenant? Pourquoi n'avoir pas fait ça avant?
Est-ce que, par exemple, si on obligeait ces pays dont les stades ne sont pas homologués à aller jouer ailleurs, ça n'allait pas plus inciter les autorités à retoucher ces stades-là pour les mettre à jour?
Nous sommes dans un contexte assez particulier. Il y a des pays comme la Libye et la RCA qui sont venus de jouer depuis plusieurs années sur les terrains. Mais je pense que la CAF aurait dû d'abord saisir les fédérations locales pour essayer de faire part de cette situation-là. Vous avez des pays de tradition qui sont à la liste CAF parmi les 10 meilleurs en Afrique, mais qui ne sont pas dans la liste des pays qui ont des stades habilités. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de fuite en avant, et surtout parce qu'on a le sentiment que cette opération a été faite sous une forme de pression. On a le sentiment que la CAF n'a fait qu'agir par l'entremise d'un bras étiré. Donc,
vous pensez que la FIFA est derrière tout ça, dans la mesure où Infantino était à Abidjan, où s'est tenue la réunion du comité d'urgence?
Rarement on a vu un dirigeant de la FIFA mettre autant de temps en Afrique. Il se passe quasiment un mois tant qu'il ne sort sur le continent noir. Il y a des infrastructures, certes en Afrique, qui sont à travailler. Mais on a comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a un message tendancieux qui est derrière cette affaire. La FIFA, d'une manière ou d'une autre, est contrainte dans cette affaire.
Thierry Ndo, journaliste sportif à Sky One Radio, joint à Yaoundé. c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manirakiza a été à la présentation. Ici, Balomonde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.